Le mois de Saint-Joseph, le thème, parce que les deux méditations vont tourner autour du Saint-Patriarche, bien évidemment compte tenu de la solennité prévue dans 8 jours. L'Église a consacré certains mois aux dévotions les plus importantes, le mois de mai, le mois de Marie, le mois d'octobre encore, la Vierge, le mois du Rosaire, novembre, le mois des défunts, mars, Saint-Joseph. Et là, plusieurs, dans la tradition récente de l'Église, plusieurs papes qui se sont prononcés au sujet de Saint-Joseph, le bienheureux Pie IX, le déclarant patron de l'Église universelle, Léon XIII, lui consacrant justement le mois de mars. Le Concile Vatican n'a pas réservé de texte précis, sauf l'inclusion dans la prière eucharistique numéro 1, récemment l'inclusion dans toutes les prières eucharistiques de Saint-Joseph. Je voulais un peu, pour nous mettre dans la bonne ambiance, commencer cette récollection et cette méditation par deux textes, l'un de Léon XIII, qui est saisissant. Vous allez voir, on dirait qu'il est écrit hier, alors qu'il a été écrit à 120, 130 ans. Écoutez ça. « Or, vous connaissez les temps où nous vivons, vénérables frères. Ils ne sont pas beaucoup moins calamiteux pour la religion chrétienne que ceux qui, dans le passé, furent le plus remplis de désastres. Nous voyons s'éteindre dans un grand nombre d'âmes le principe de toutes les vertus chrétiennes, la foi. La charité se refroidir. La jeunesse grandir dans la dépravation des mœurs et des opinions. L'Église de Jésus-Christ attaquée de toutes parts par la violence et par l'astuce. Une guerre acharnée dirigée contre le souverain pontificat. Les fondements même de la religion ébranlés avec une audace chaque jour croissante. À quel degré on en est descendu ces derniers temps et quel dessein on agite encore, c'est trop connu pour qu'il soit besoin de le dire. Dans une situation si difficile et si malheureuse, les remèdes humains sont insuffisants et le seul recours est de solliciter de la puissance divine la guérison. Pas de commentaire, n'est-ce pas? L'état du monde à la fin du 19e siècle. Les deux textes suivants, enfin deux petits paragraphes de Saint Jean-Paul II. Nous jugeons très utile que le peuple chrétien s'habitue à invoquer avec une grande piété et une grande confiance, en même temps que la Vierge, Mère de Dieu, son très chaste époux, le bienheureux Joseph. Agissant ainsi, nous avons la certitude de plaire à la Sainte Vierge Marie, elle-même, et de répondre à son désir. C'est une pratique salutaire et des plus louables, établi déjà en quelques pays, de consacrer le mois de mars à honorer par des exercices de piété quotidiens le Saint Patriarche. Quelle finalité l'Église s'est-elle proposée en prenant ces dispositions que nous venons de rappeler par ces textes? Et il me semble que c'est assez évident. Deux mots qui fixent cette intention de l'Église: nous proposer, nous donner un modèle, Joseph, un intercesseur à retenir. Un modèle, un intercesseur. Et c'est la double idée qui sous-tend notre récollection de ce soir, à quelques jours de sa fête. Nous voudrions que cette récollection nous aide, nous tous, à faire une place plus importante dans notre piété personnelle et à notre réflexion, le rôle, la place de Joseph pour voir effectivement en lui le patron de l'Église et le modèle parfait à imiter. C'est-à-dire le maître de notre vie intérieure. C'est le titre de la première méditation qui suit, donc que je commence dans 2 minutes. Maître de notre vie intérieure. Maître de notre relation avec Dieu. Selon les caractéristiques de la vocation chrétienne générale, au milieu du monde, comme Joseph, comme toi, comme moi. Saint Joseph, maître de la vie intérieure des chrétiens. La seconde méditation, tout à l'heure, nous allons voir une des facettes bien connues de la vie, certainement réelle, mais pas très explorée. Avec Joseph, il faut beaucoup réfléchir, il faut se mettre en situation, savoir comment ça se passait dans son temps, pour savoir comment il vivait. L'amitié. On va parler de l'apostolat, d'amitié, de la confidence, en nous appuyant sur Joseph. Première méditation, donc, maintenant, Saint Joseph, maître de la vie intérieure des chrétiens. Peut-être un petit mot sur le sens de l'expression « vie intérieure », même s'il y a sans doute pas beaucoup d'ambiguïté, mais « vie intérieure » est pratiquement synonyme de « vie surnaturelle » ou encore de « la vie de la grâce ». Donc, la vie que j'ai là-dedans, ma vie intérieure et la vie que j'ai, qui est animée par la grâce sanctifiante, par les vertus, par les dons du Saint-Esprit. Saint Joseph est modèle de cette vie surnaturelle, de la vie de l'action de la grâce. Et, dans cela, dans l'histoire de la spiritualité, on a employé souvent, par opposition à vie extérieure, l'activité. Elle souligne que la valeur des actes extérieurs dépend des actes intérieurs. Nous le savons, c'est du cœur que naissent les réalités belles, mauvaises aussi. Et donc, le fait de voir les dispositions personnelles de la personne qui agit, ben, nous pouvons les découvrir là-dedans, dans la vie intérieure. C'est beau, je pense, de considérer comment Saint José Maria nous a toujours encouragés à être des âmes de vie intérieure. Et nous allons comprendre très bien un des points les plus puissants de chemin, 837, en le plaçant dans l'époque où Saint José Maria l'écrit. Saint José Maria écrit chemin dans les années 20, il y a 100 ans. 1900. 20, 30. Et cette époque-là, dans l'Église catholique, l'accent est mis sur l'activité, l'action catholique et tout ça, des réalités qui naissent dans l'Église pour favoriser, encourager et presque privilégier l'activité extérieure dans le monde, aller dans le monde. Et les gens, aller de plus en plus, il y a une espèce de frénésie. Et si l'activité extérieure, c'est le sens de ce point, nous n'avons pas besoin d'explication, mais le sens du point que je vais lire maintenant, pour dire, toute cette activité, mais d'actualité maintenant, toute cette activité qu'on peut déployer, si elle n'est pas vraiment fondée sur la vie intérieure, sur la vie de la grâce, c'est du vent. Et c'est même mauvais. Je lis. Galoper. Agir. Fièvre, folie de bouger. On connaît un petit peu ce qui a été construit. Il y a une allusion aussi à la construction, aux bâtiments, aux églises, à ces hangars parfois, qui ont commencé à être construits à cette période-là. Merveilleux édifice matériel, spirituellement, planche, il joue certainement là les édifices. Et extérieur, intérieur, spirituellement, planches de bois blanc, pauvres tissus de coton, panneaux coloriés. 3 petits points. Galoper, agir, va-et-vient général. C'est parce qu'ils travaillent pour l'heure présente. Ils sont toujours au présent. Toi, le style de chemin, il présente une situation rapidement, un flash, et dit pas, allez, examen de conscience. Toi, tu dois voir les choses sous un jour d'éternité, en ayant présent à l'esprit à la fois le terme final et le passé. Quiétude, paix, vie intense, mais au-dedans de toi, sans galoper, sans cette maladie de changer sans cesse de place, de l'endroit même qui t'est assigné, dans la vie, tu seras, pour un grand nombre, source de lumière et d'énergie, comme une puissante turbine spirituelle, sans perdre toi-même ta force et ta lumière. Là, je pense à Saint Joseph. Sans galoper, sans cette maladie de changer sans cesse de place, de l'endroit même qui t'est assigné dans la vie, tu seras pour un grand nombre source de lumière et d'énergie, comme une puissante turbine spirituelle, sans perdre toi-même ta force et ta lumière. C'est précisément là que l'exemple de Saint Joseph devient lumineux. Il a vécu avec l'enfant Jésus, le Dieu fait homme, et avec la Vierge Marie. Il en a pris soin selon le plan que Dieu, le Père, avait établi de toute éternité. Il respecte ce plan sans jamais se faire remarquer. Ce qui signifie qu'il avait un esprit contemplatif permanent de tous les instants en faisant ce travail modeste, manuel. Sa vie se déroulait, c'est l'idéal pour nous tous, sa vie se déroulait en la présence de Dieu, de Jésus et de Marie. Sur cet aspect, Saint José Maria a écrit de belles paroles. Je lis de « Quand le Christ passe », paragraphe 39, un bref extrait. Saint Joseph est vraiment Père et Seigneur. Il protège et accompagne dans leur chemin sur terre ceux qui le vénèrent, comme il a protégé et accompagné Jésus, enfant et adolescent. En le connaissant mieux, on découvre que le Saint Patriarche est aussi maître de la vie intérieure, car il nous apprend à connaître Jésus, à vivre avec lui, et nous dit, et nous fait découvrir que nous appartenons à la famille de Dieu. Tout cela, Saint Joseph nous l'apprend en étant un homme ordinaire, comme il le fut, un père de famille, un travailleur qui gagnait sa vie à la sueur de son front. Et cela aussi a un sens qui nous fait réfléchir et nous remplit de joie. C'est fini pour la lecture, ça suffit. Grosso modo, Saint Joseph vivait uni à Dieu selon plusieurs modalités, j'allais dire, complémentaires. Deux remarques rapides. La première, sur sa vie de piété. En tant que juif zélé et pratiquant, Joseph respecte la loi. Et notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il commencera sa vie publique, nous le verrons imiter Joseph en cela. Monter au temple, respecter le sabbat, la synagogue, etc. Donc, sur le plan humain, Saint Joseph a agi comme un vrai maître qui enseigne tout à son enfant, qui est Jésus pourtant. Il transmet son acquis, ses connaissances, mais il transmet surtout, et avant tout, sa foi. Et c'est un aspect très important de la vocation de Joseph. Et c'est comme ça qu'il occupe la place dans le plan de Dieu, de transmettre des connaissances humaines et de transmettre la foi, et de nourrir la foi au sein de la Sainte Famille, avec Marie également. Donc ça, par le respect de la loi. Seconde remarque, pour la vie intérieure, donc en respectant la loi, il nourrit, il enseigne. Et puis, la deuxième remarque concerne les conversations avec son épouse, la Vierge Marie, et avec l'enfant Jésus. On n'a pas d'enregistrement, on n'a pas de vidéo, mais évidemment, le fait que Joseph, parce qu'il le savait, il l'a appris avant même la naissance de Jésus. Il savait que, et il voyait chez Marie, l'épouse du Saint-Esprit. Lorsqu'il parlait à Marie, il s'adressait à son épouse qui était l'épouse du Saint-Esprit. Et il s'adressait, n'est-ce pas, au Fils de Dieu incarné. Ça, c'est la conversation de Joseph dans le foyer. Il était, pour lui, sans aucun doute très facile d'élever son cœur vers Dieu, le Père, source de tout. Pour Joseph, qui est conscient de la mission qui lui a été confiée, mais qui est encore plus conscient de quoi ? De la grâce qui lui a été faite, n'est-ce pas ? Il a reçu une grâce, et autrement dit, il prie, et Joseph, n'est-ce pas, imaginons les moments de prière, seul, avec Marie, avec Jésus, mais à tout moment, Joseph prie, il est en présence de Dieu tout le temps, et de sa mère. N'est-ce pas qu'il est notre maître ? N'est-ce pas que nous devons et nous voulons l'imiter dans sa prière personnelle, dans sa vie de prière, dans toute sa vie de prière. Et ça sera un petit peu le dernier point de cette première méditation que de dire la prière de Joseph en analysant même très rapidement ce que nous avons considéré plus d'une fois, c'est-à-dire que même le mot prière, le verbe prier, qui est la clé de voûte de tout. C'est comme dans notre vie, la clé de voûte de tout, c'est la prière. Et le mot prière, le verbe prier, tous les deux sont très présents dans la vie des hommes. Et non seulement dans le contexte religieux de la prière, pas du tout. Aujourd'hui, vous et moi, nous l'avons utilisé dans des circonstances les plus banales, sans penser du tout à Dieu. « Je vous prie de croire », avons-nous peut-être écrit dans tel ou tel courrier aujourd'hui. « Je vous prie ». Dans le métro, je vous en prie, pour dire. Je vous prie de faire ceci ou cela dans un message, un SMS, un collaborateur. Je vous prie. C'est pas religieux, là. Mais ces formules présentes déjà, sur le plan humain, nous donnent plusieurs aspects de la prière que nous allons voir maintenant dans ces 10 petites minutes qui nous restent de la méditation. Parce qu'on les trouve vraiment, les nuances de cette utilisation profane, j'allais dire, nous les retrouvons dans les moments de prière. Selon un schéma très classique, 2 points pour la suite de notre méditation. Au sujet de la prière, parce que c'est la clé de tout, je répète. Donc, si Joseph est le maître de la vie intérieure, nous apprenons de lui, surtout pour la vie intérieure, nous devons apprendre à prier. Prière vocale, petit b, prière mentale. La prière vocale, à l'aide de certaines formules, nous venons de voir que nous faisons part aux autres d'une demande pour obtenir une faveur, je vous prie, une prestation de service, pareil, pour présenter nos excuses, je vous en prie, pour saluer, bref. Et tout cela appartient à ce que nous appelons habituellement les bonnes manières. Comment les bonnes manières peuvent-elles être absentes de notre relation à Dieu ? Les bonnes manières doivent être présentes aussi. Et donc, dans nos relations avec Dieu, il en est pratiquement de même. Il suffit d'être poli avec Dieu pour bien prier. Et j'allais dire, a fortiori, du fait que nous sommes vraiment indigents devant Dieu. Nous sommes vraiment misérables devant Dieu. Nous devons prier, quémander beaucoup de choses. Donc nous devons beaucoup prier et beaucoup obtenir. Nous avons des excuses à présenter au bon Dieu. Et combien ? Et nous avons des faveurs à obtenir. Et nous devons lui dire notre respect. Tout cela, vous voyez, ça s'exécute, j'allais dire, par les prières vocales très souvent. Parce qu'il en existe beaucoup. Ce qui nous permet de grouper les prières vocales en 2 groupes. Premier groupe, très rapidement, des formules de prière que la tradition de l'Église et que nos ancêtres nous ont léguées. Le Notre Père, c'était dans l'évangile de la messe, il y a 1 ou 2 jours. L'Ave Maria, le Bénédicité à table. Et d'autres, tirés des livres de dévotion. nous apprenons des prières vocales. Et bien entendu, sans tomber dans une récitation machinale ou mécanique, où nous disons aussi des prières qui sont bien structurées, comme le rosaire, comme l'angélus, des prières vocales. Et dans beaucoup de circonstances, ces prières vocales, apprises par cœur, j'allais dire, sont les seules possibles. Parce que notre cœur est sec, parce que notre tête est vide, et nous disons ça en disant « je prie, même si le reste ne suit pas, et le plus important ne suit pas, mais mon effort est là, ma bonne volonté est là, et ces prières, elles vont tout droit au cœur de notre Père du Ciel, et tout droit au cœur de la Vierge Marie. Il faut les utiliser, ces prières vocales. Il faut beaucoup les aimer, ces prières vocales. » Ces formules toutes faites. Mais il y a un second volet dans les prières vocales, c'est des prières donc toutes courtes, qui sont improvisées et qui, elles, sont à dire tout au long de la journée. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de retenue. Ce qu'on appelle les oraisons, les flèches d'amour, les oraisons jaculatoires, yakula, flèches. Et donc, et pour avancer vers la sainteté, on a besoin de ces flèches pour renouveler notre lutte, pour revivre nos résolutions, les réactualiser, pour dire notre contrition, il faut dire pardon, pour faire grandir l'amour, je t'aime, aide-moi, je regrette Seigneur. Et à l'heure de la tentation, on en a besoin aussi, n'est-ce pas? Pour chercher la force en Dieu, pour penser à Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur. Pour rester serein. Chacun connaît son tempérament, mais pour éviter la brusquerie et tout ça, et tout ce qui pourrait blesser les autres, on a besoin de dire, Seigneur, aide-moi, viens à mon secours, au secours. Et pour persévérer dans son travail, jusqu'au bout, sans le laisser tomber, une petite flèche d'amour, un petit mot, un petit regard, une image de la Vierge, paf, et notre cœur s'enflamme et notre volonté repart. On a besoin de la prière vocale, beaucoup de prières vocales tout le temps. Soyons sûrs que Saint Joseph se servait naturellement de cette forme de prier. Et tout ce qu'on vient de dire, on voudrait avoir 10 minutes maintenant pour dire, Joseph, je suis sûr qu'il a dit ça, à la Vierge Marie, et qu'il a dit ça à son enfant, et à tous les deux, et qu'il s'est laissé dire ça, évidemment, et ça c'est, on dit, ah, la vie en famille comme ça, c'est délicieux. Dans toutes les facettes, Joseph répétait les psaumes par cœur, il les connaissait les 150 par cœur, sûr, parce qu'il était pieux. Et lorsqu'il allait le sabbat, lorsqu'il allait à la synagogue, lorsqu'il allait au temple, eh bien, évidemment, il disait les prières que les juifs justes disaient. Donc, on n'a pas besoin d'avoir la révélation qui nous dise que Joseph disait ça. Nous le savons. Et ce qu'il disait à Marie, à Jésus, ben, nous le savons. Parce qu'il savait que la Vierge Marie était l'épouse du Saint-Esprit, je répète. Que c'était l'Esprit qu'il avait couvert de son ombre. Il a reçu la révélation. Ne crains pas de prendre Marie, ton épouse. Eh bien, il le savait ça, dès le départ. Et de temps en temps, il disait, oh, qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que je t'aime, qu'est-ce que tu es douce, qu'est-ce que tu es serviable, qu'est-ce que le repas sont bons, qu'est-ce que la soupe est chaude, qu'est-ce que, tout ce que vous dites à vos épouses, j'espère tous les soirs. En toute simplicité, avec son tempérament, son caractère d'homme fort, des modalités masculines, oui. Mais aussi avec une tendresse incomparable, comme une mère, tel geste, telle caresse, tel regard, comme vous, en rentrant à la maison, tous les soirs, j'espère. Ça, c'est la vie de prière. Ça, c'est les... plus encore que le service de la synagogue, le sabbat. Et la prière mentale, avons-nous dit, second volet, cette prière mentale qui complète, qui développe, qui nourrit l'esprit de la prière vocale. La prière vocale, les mots, s'ils n'ont pas un contenu qui est fourni par la tête, eh bien ça peut être très creux. Ça ne peut pas être, notre prière vocale ne peut pas être des récitations de formules. Si elle n'est pas mécanique, c'est grâce à la prière mentale. C'est là qu'on met sa tête. Lorsqu'on a médité dans notre Père, le Je vous salue Marie, lorsqu'on a médité même les oraisons éjaculatoires, le Bénédicité à table, le Je crois en Dieu, je ne sais pas, toutes les prières vocales que nous connaissons par cœur, il faut les passer par la prière mentale. Comme ça, après, on les dit d'une toute autre façon, c'est clair. Allez au catéchisme de l'Église catholique, lisez les passages des commentaires du Notre Père, du Je vous salue Marie, du Credo, du Rosaire. C'est splendide, c'est fabuleux. Et on enrichit sa prière vocale. Donc, la prière mentale au service de la prière vocale. Et puis, deux idées présentes dans l'Évangile de la messe des cendres, il y a 6 jours. C'est un passage important du sermon sur la montagne, où le Christ ne se prive pas de dire pour la prière mentale, l'oraison mentale, la contemplation, la méditation, ce que tu veux, et fixe le moment, fixe la durée de ta prière mentale tous les jours. Tu as besoin de prière mentale. Le Christ ne dit pas « et si vous priez ?» Non, quand vous priez, comme quelque chose d'acquis, un fait acquis. Il faut donc programmer un peu ces moments de prière personnelle. C'est la première étape et la première chose à faire pendant le carême. Ça fait 6 jours déjà. Nous l'avons précisé, les moments et la quantité de prière à quel, et le lieu aussi. C'est très personnel. Voyez-le avec le prêtre qui vous accompagne. Mais ça, c'est quelque chose qui doit être... Ne quittez pas la récollection ce soir sans l'avoir fixé. Et le lieu, le mieux, bien entendu, c'est une chapelle. Mais en fait, partout. Et le Christ dit, rentre dans ta chambre, ferme-toi, isole-toi, pas de pagaille. Et là, le Seigneur qui voit dans le secret, le Père, il te le revaudra et puis il bénira cette prière que tu fais là où tu peux, comme tu peux. Si tu peux, dans une église, devant le Saint-Sacrement. Donc, d'abord, le moment et la durée de notre prière mentale. Et puis, et je termine par là, le contenu de notre prière mentale. Prie ton Père qui voit dans le secret. Et Dieu le Père voit l'état de mon âme. Il voit mes projets, tes projets, il les voit, tes craintes, tes succès, tes échecs, tes points de lutte. Ton Père voit dans le secret de ton âme. Parle-lui de ça. Et un jour, tu parleras avec Dieu le Père de la douleur de l'avoir offensé. Tu regrettes de l'avoir offensé. Et tu as la contrition et la réparation. Et tu prends des résolutions. Et ton Père voit ça parce qu'il voit dans le secret. Et il te donnera l'aide dont tu as besoin. Et tu peux analyser dans la prière les circonstances de tes fautes pour les éviter à l'avenir. Et Dieu qui voit dans le secret va t'aider à tenir dans ces résolutions-là. Et un autre jour, tu verras dans la prière comment améliorer ta charité dans tes rapports avec les autres. Et comment avoir plus de disponibilité peut-être en rentrant le soir auprès de ton épouse, des enfants. Et dans ta prière, tu verras la manière de contrôler un peu mieux ton caractère qui n'est pas bon, qui n'est pas doux. Et à contrôler les réactions trop spontanées, agressives, qui ne devraient pas exister. Une sévérité, une dureté à l'égard des enfants, de l'éducation, je sais pas, que sais-je, tout ça. Et là, voilà le contenu de la prière. Le contenu, c'est ta vie, c'est ta lutte, c'est tes efforts, c'est les autres, c'est toi. Invoquons vraiment, vraiment, et très profondément Saint Joseph et la Vierge Marie, si nous voulons bien prier, si nous voulons avoir une vraie vie intérieure.